13h40, heure de Paris, bonne écoute.
Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous et bienvenue sur Accent, et nous partons en Italie où les premiers amendements de la loi sur les unions civiles pour couples du même sexe sont en principe votés aujourd'hui au Sénat. Mais comme en France en 2013, les débats ont tourné au psychodrame à quelques jours du vote définitif sur le texte. Les principaux partis politiques, y compris le Parti démocrate de centre-gauche et le mouvement 5 étoiles, sont divisés entre la nécessité de doter l'Italie d'une législation qui mette fin à des situations de discrimination et les convictions religieuses dans ce pays très catholique. Alors Matteo Renzi réussira-t-il à relever ce défi, à tenir sa promesse? C'est le reportage de Mathilde Villain.
Voilà 30 ans que ce pays essaye de faire une loi pour les couples de même sexe. Cette année sera certainement la bonne.
Monica Cirinna est optimiste. Cette sénatrice du Parti démocrate est auteure de la loi sur les unions civiles en cours d'examen au Sénat italien. L'Italie est un des derniers pays fondateurs de l'Union européenne à ne pas encore avoir de cadre légal pour les couples de même sexe. Une situation d'injustice quotidienne, dénonce Gabriele Piazzoni, secrétaire national de l'association Arcigay.
Le problème, c'est que nous sommes reconnus comme des citoyens comme les autres seulement quand il s'agit de nos devoirs. Nous payons nos impôts, nous devons, nous le faisons bien volontiers, contribuer à la vie politique et sociale et économique du pays. Mais quand il s'agit d'être reconnus comme des citoyens de plein droit, comme les autres, là, il y a un vide. Et il n'y a aucune raison pour que ce soit toléré en 2016 en Italie. Nous voulons les mêmes droits et les mêmes devoirs que chaque Italien.
Promise par Matteo Renzi, la loi sur les unions civiles devrait permettre de normaliser la situation de l'Italie, régulièrement rappelée à l'ordre par la Cour européenne des droits de l'homme. Le dernier projet de Pax à l'italienne, le DICO, remonte à 2007. Il s'était soldé par un échec. À l'époque, Romano Prodi avait dû faire marche arrière. Mais aujourd'hui, Monica Cirinna estime que le contexte est différent.
Je pense que le pays a mûri depuis 2007. En plus, le mariage pour tous est devenu presque normal. Tous les pays sont devant nous, même l'Irlande et les États-Unis, grâce à la Cour suprême conservatrice pourtant. Le mariage égalitaire en Angleterre, c'est le fait du conservateur Cameron. Ce n'est donc plus une question de droite ou de gauche. Aujourd'hui, il faut juste interroger nos concitoyens. Voulons-nous enfin donner les mêmes droits à tout le monde? Et si dans une famille hétérosexuelle comme la vôtre, la mienne, un des enfants était gay. Maintenant, les Italiens commencent à penser ainsi parce que la situation a changé.
La société est cambiata.
Mais rien n'est encore joué. Fin janvier, des dizaines de milliers de personnes venues de toute l'Italie ont convergé à Rome pour le Family Day, une grande manifestation pour demander le retrait du texte dans son intégralité. Sur les pelouses du Cirque Maxime ce jour-là, on retrouvait un condensé de l'Italie catholique conservatrice attachée à ses valeurs traditionnelles.
La famille est faite de maman et papa.
Les opposants au texte sur les unions civiles se focalisent sur l'article 10 de la Stepchild Adoption, disposition qui permet à l'un ou l'autre des membres du couple de même sexe d'obtenir une responsabilité légale sur le ou les enfants de son conjoint. Une ouverture inacceptable pour les militants de la Manif pour tous à l'italienne, Jacopo Cog, responsable de Generazione Familia.
Le monde entier observe l'évolution en Italie. Beaucoup disent que nous sommes les derniers de la classe en Europe, qu'il manque des lois sur les droits civils. Mais en réalité, l'Italie veut être un phare en Europe, un phare des droits des enfants. Un enfant a besoin d'un papa et d'une maman.
Et leur cousin français était venu leur prêter main forte. Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous France, était à Rome pour le Family Day.
Petit à petit, dans différents pays d'Europe, la défense de la famille prend de l'ampleur. Et de fait, c'est un sujet humainement extrêmement important. La question qui est au cœur, c'est l'enfant, les besoins de l'enfant, les droits de l'enfant. Faire volontairement parce que ça aboutit à cela, des orphelins de père ou de mère, eh bien, ça n'est humainement pas acceptable.
La puissante conférence des évêques italiens, la CEI, et le Vatican, évidemment très critiques vis-à-vis du projet de loi, ont cependant gardé leur distance. Sans intervenir directement dans le débat politique, ils ont laissé les laïcs prendre la tête de la fronde anti-union civile. La petite phrase du pape François, « Qui suis-je pour juger ?» était peut-être un premier signe de changement, estime Monica Cirina.
L'État fait l'État, l'Église fait l'Église. Moi, je suis législateur, je suis une élue d'un État laïque et je réponds seulement à la Constitution. L'Église, elle joue son rôle en dehors du Parlement.
La balle est donc maintenant dans le camp des politiques au Parlement de se prononcer.
Après avoir commencé à filtrer les migrants dès le mois de novembre, la Macédoine se construit désormais une double clôture barbelée à la frontière avec la Grèce. Un message très concret envoyé aux réfugiés qui dit « Inutile de tenter de franchir la frontière illégalement ». Mais peu importe ce genre de décision, il y a encore des bénévoles qui s'investissent en faveur de ceux qui fuient la guerre et la misère, comme Maria Moutsouri. Cette jeune femme tient une petite guest house à Goumenissa, près de la frontière. Depuis le début de la crise, elle n'hésite pas à accueillir des migrants illégaux. Simon Rico l'a rencontrée.
Jusqu'à l'été 2014, la bourgade de Goumenissa était célèbre dans la Macédoine grecque au nord du pays pour son vin et sa fontaine bâtie par les soldats français postés autour de Thessalonique pendant la Première Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, c'est la question des réfugiés qui agite la population locale. À quelques mètres de la fontaine, on trouve une jolie guest house d'Imosthenis tenue par Maria Moutsouri. Cette pimpante trentenaire, cheveux frisés et petites lunettes rectangulaires toujours vissées sur le nez, ne prend pas seulement soin de ses hôtes. Dès le début de la vague des réfugiés, elle s'est engagée dans un réseau de volontaires locaux, très actifs sur le terrain comme sur les réseaux sociaux. Engagée politiquement, Maria a à cœur de venir en aide à ses candidats à l'exil qui fuient leur pays pour une vie meilleure. Dans une Grèce rongée par la crise, autant dire que les gens du coin sont sensibles à ce désir d'ailleurs. Sur Facebook, ses appels aux dons ont rencontré un grand succès. Elle a reçu des centaines d'euros d'inconnus installés aux quatre coins du globe. Il faut dire que Maria peut compter sur une diaspora grecque nombreuse et généreuse. Du fait de la crise des réfugiés, sa guest house accueille régulièrement des journalistes ainsi que des personnels d'ONG et des traducteurs. Mais c'est cet hiver que Maria s'est sentie le plus impliquée dans le drame qui se joue autour d'elle. Début janvier, plusieurs milliers de réfugiés se sont retrouvés bloqués dehors, sans abri, par des températures bien inférieures à 0 degré. Alors la jeune femme leur a ouvert les portes de son auberge. Pendant plusieurs jours, tous les acteurs de la crise humanitaire qui se joue dans le nord de la Grèce se sont retrouvés ensemble sous le même toit, sans l'avoir choisi. Certains pour leur travail, d'autres pour sauver leur vie. Et tous se sont rassemblés autour du feu pour bavarder, manger ou boire un verre. Ils sont partis maintenant, mais Maria est rassurée. Par Facebook, elle a appris que les réfugiés qu'elle a hébergés étaient bien arrivés en Allemagne, là où ils souhaitaient s'installer.
Musique angoissante pour une question. Et oui, faut-il avoir peur du saumon norvégien ? Depuis quelque temps, les consommateurs doutent des pratiques d'élevage dans les fjords. Aujourd'hui, la situation a empiré, la production stagne. De nombreux experts tirent la sonnette d'alarme, car l'usage de pesticides et de produits interdits ont explosé ces dernières années au large des côtes norvégiennes. C'est le reportage de Sébastien Orion.
Arnaud Opnes travaille dans la plus ancienne organisation norvégienne qui relève des questions environnementales. Lui et son équipe de scientifiques tentent de pousser le gouvernement et surtout le ministère de la Pêche à plus de transparence. Si l'élevage de saumon est la deuxième industrie de Norvège, elle s'est développée au mépris des conséquences environnementales.
Rien n'a changé dans les méthodes d'élevage depuis 5 ans. Les enclos à filet ouvert sont encore utilisés, ce qui favorise une grosse production de saumon, mais aussi la prolifération des poux de mer qui tuent aussi les truites de mer et les saumons sauvages dans nos fjords.
L'enjeu est en effet colossal pour l'aquaculture norvégienne, car à ce jour, 99% des fermes utilisent toujours des enclos à filet ouvert.
Ils utilisent beaucoup de produits chimiques pour tuer les poux de mer dans les fermes d'élevage et cette utilisation a été multipliée par 10 rien que ces deux dernières années. Ces poisons se répandent dans nos fjords, dans notre environnement. Cela a un impact énorme sur l'écosystème et spécialement sur les crustacés, les crevettes et les moules. Elles n'arrivent plus à développer leurs coquilles. Les fermiers eux-mêmes sont perdants au final, ils perdent beaucoup d'argent.
Mais la situation évolue et de plus en plus de Norvégiens s'impliquent pour protéger les fjords et leur écosystème. Désolé, le pêcheur et activiste Erik Sterud montre l'étendue de cette véritable industrie. Avec son collègue Jens Flecke, il dénonce la place prise par les saumons d'élevage au détriment de leurs cousins sauvages.
Ces 30 dernières années, on a assisté à une diminution de moitié du nombre de saumons sauvages retournant dans les rivières norvégiennes. L'industrie d'élevage doit assumer sa part de responsabilité dans cette extinction. À l'heure actuelle, cette industrie ne mise absolument pas sur le développement durable.
Bien conscient du désastre, il souhaite transformer l'industrie aquacole grâce à un nouveau mode de production. Des enclos fermés qui évitent le développement des poux et l'utilisation de produits dans les fjords. Mais ils restent conscients qu'ils font face à un lobby puissant.
Notre ancienne ministre de la Pêche est elle-même propriétaire d'une ferme d'élevage et la sœur de notre première ministre actuelle est un des leaders du groupe Marine Harvest. Il y a donc des liens très étroits entre l'industrie de l'élevage et le système politique norvégien.
Mais les deux pêcheurs restent optimistes et espèrent démontrer par les faits que les fermiers ont tout à gagner. Des saumons de meilleure qualité, avec une mortalité plus faible et surtout réaliser des économies importantes.
Ce sont des hommes d'affaires.
Oui, ils pensent avec leur portefeuille, c'est sûr.
Mais nous sommes à un tournant maintenant. Si les gens sont au courant, si les politiques sont informés, que ce changement doit être fait pour notre avenir, alors ça va bouger.
Et sur ce marché naissant, certains ont senti le bon filon et développent différentes sortes de containers fermés pour répondre à la demande. Geir Spiten est l'un de ses fournisseurs.
La Norvège commence seulement à modifier son mode de production. Certains de mes clients ont déjà le label rouge. Vous devriez bientôt voir arriver sur le marché français une nouvelle sorte de saumon produit en enclos fermé.
Si les éléments du changement sont palpables, la Norvège est encore loin du compte. Il faudra donc attendre encore quelques années pour arriver à une production responsable et avoir des étiquetages clairs sur la manière dont les saumons norvégiens sont élevés et nourris.
La chronique des jeunes européens.
Bonjour Amino.
Bonjour Catherine.
Alors aujourd'hui, nous allons aborder la question de la sécurité sur le net, un lieu très fréquenté par les jeunes, n'est-ce pas Eve ?
Ouais, tout à fait.
Alors plus précisément, on va parler de ce qu'il est possible de faire pour prévenir les arnaques, les abus et lutter contre la cybercriminalité notamment. Chez les jeunes.
Oui, pas d'angélisme, hein, Catherine. Rappelons quand même que les jeunes ne sont pas seulement des cybervictimes, ils sont aussi parfois dans le camp des cybercriminels. Il y a encore quelques jours en France, un jeune homme de 18 ans, par exemple, a été arrêté. Il est proche du milieu hacker et il est soupçonné d'être lié aux alertes à la bombe hein, qui ont provoqué l'évacuation récemment de plusieurs lycées en France et aussi au Royaume-Uni.
Reste qu'hier en Europe, c'était la journée Internet sans crainte.
La Safer Internet Day, une journée lancée il y a déjà une dizaine d'années par la Commission européenne, qui vise à sensibiliser bien sûr tous les utilisateurs d'Internet aux dangers, et plus particulièrement les jeunes qui passent, vous l'avez dit, de plus en plus de temps sur le net.
Et cette année, une étude Eurostat montre que la France est l'un des pays les moins sûrs d'Europe en la matière. Étonnant, Eve.
C'est l'Office statistique européen qui l'a dit. En effet, en France, 33% des utilisateurs du web sont confrontés à des problèmes de sécurité, des virus par exemple, ou une utilisation abusive de leurs données personnelles, des pertes financières, ou enfin l'accès par des enfants à des sites inappropriés. C'est beaucoup plus que la moyenne européenne des attaques qui concernent environ un internaute européen. Sur 4. La France se situe donc en fin de tableau, juste au-dessus de la Croatie, de la Hongrie et du Portugal, tandis que les meilleurs élèves se trouvent du côté de la République tchèque, des Pays-Bas et de la Slovaquie.
Bon, on peut dire globalement que la situation s'améliore.
C'est la bonne nouvelle. mal à retenir. Il existe heureusement aujourd'hui une véritable prise de conscience des dangers sur le net, aussi bien du côté des institutions que des entreprises et des particuliers. En France, la lutte contre les virus a énormément progressé ces 5 dernières années. La protection des données est quant à elle aujourd'hui un vaste chantier. La CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, a d'ailleurs très récemment, c'était lundi soir, demandé au géant américain Facebook de se conformer enfin à la loi française sur 6 points.
Bon, alors 6 points, quels sont-ils ?
Alors, le réseau social est accusé de traquer les utilisateurs même sans leur consentement, de demander parfois un dossier médical sans justification, d'enregistrer chaque fait et geste sur le site et surtout de ne pas être clair sur la nature du transfert des données vers les États-Unis. Vous savez, c'est là où la multinationale a son siège social. Le géant californien a 3 mois pour faire des progrès.
Alors Eve, un autre géant du net a profité de la journée européenne Internet sans crainte pour mobiliser ses utilisateurs.
Google, pour ne pas le citer, a offert 2 gigaoctets de stockage gratuit à tous ceux qui acceptaient hier de vérifier la fiabilité de leur compte. Alors c'est un peu anecdotique, mais c'est aussi une preuve que tous les acteurs sont mobilisés sur ce sujet, y compris les géants du net.
Alors quelques conseils peut-être Eve, hein, quelles sont les bonnes pratiques à adopter ?
Bien sûr, l'idée de cette journée, c'est donc de sensibiliser les plus jeunes aux risques qu'ils encourent, à la cyber-intimidation d'abord, aux discours de haine et aux publicités manipulatrices. L'organisme qui organise donc cette journée de vigilance conseille de se créer par exemple plusieurs boîtes mail, l'une personnelle, l'autre pour les jeux et les réseaux, de bien réfléchir avant de poster une photo qui pourrait un jour nous desservir, et enfin de prendre des pseudonymes.
On va vérifier tout ça, Eve. Merci, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Et oui, la pratique de la langue de Shakespeare ou de Goethe n'est pas donnée à tout le monde. Les élus français ne sont pas les seuls cancres de l'Europe. Les députés bulgares ne sont pas en reste. Du coup, l'Assemblée a prévu près de 110 000 euros sur 3 ans pour que les élus puissent mieux communiquer avec leurs homologues européens ou des journalistes étrangers. Et ils en ont bien besoin de ces cours de langue, comme l'a constaté notre correspondant à Sofia, Damien Vodenicharov.
Difficile de se faire comprendre ou de comprendre un débat à Bruxelles ou Strasbourg quand on est un élu bulgare. Les langues étrangères ne sont pas vraiment son point fort. Un entretien en anglais du député européen Nikolai Barekov est devenu la risée des réseaux sociaux. Voilà comment il explique sa position sur les relations avec l'Iran.
Je enquête problème en Iran, dans gouvernement, dans opposition. Aujourd'hui, nous écouter 1, 2, 3 voix de position iranienne. Ma méthode préfère relation d'action, Parlement européen et Iran, est équilibre, pacifiquement. Aujourd'hui, nous écouter autre histoire.
Au sein du Parlement bulgare, le niveau de maîtrise n'est pas plus élevé. Ce qui est d'autant plus curieux que sur leur CV, la majeure partie des députés affirme s'exprimer dans plusieurs langues. Krasimir Karakachanov, du parti nationaliste VMRO, dit parler allemand. Voilà comment il répond aux questions d'une journaliste.
Pensez-vous que la production de gaz de schiste pourrait assurer l'indépendance énergétique de la Bulgarie ?
Désolé, moi, comprendre, mais parler allemand très très mal.
L'indépendance énergétique, ça vous dit quelque chose ?
Yes, oui, on va parler, comment dire, just a moment.
Just a moment. Certains députés font preuve d'un bon niveau de langue, mais pour éviter les malentendus, ceux qui le désirent pourront suivre des cours. Ils devront passer un test pour déterminer leur niveau. Le point de désaccord, pourtant, c'est le prix. Les cours de langue seront gratuits pour les parlementaires. Près de 100 000 euros ont été provisionnés sur 3 ans sur le dos des contribuables. Des électeurs qui doivent payer, eux, entre 100 et 450 euros par niveau de langue. Ils se sont fait entendre sur Facebook.
Quoi, ils ne peuvent pas payer 100-150 euros de leur poche, alors ils doivent compter sur le budget? Incroyable!
Ils ne peuvent pas prendre des cours tout seuls, les payer de leur poche, comme nous tous. Et nos élus ne parlent pas de langue étrangère, alors que les gens ordinaires doivent en maîtriser pour décrocher un job. C'est une honte d'être illettré au XXIe siècle.
Les députés n'auront pas non plus à se déplacer pour leurs cours. Ceux-ci se tiendront au Parlement, au sein de groupes de 12 personnes au maximum.
Merci de nous avoir écoutés. À la réalisation, Françoise Grelot. Vous pouvez nous retrouver tout de suite sur RFI.fr ou sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de RFI. Dans quelques instants, les infos.